Peut-on vivre sans s'indigner ? Difficilement. Peut-on vivre en passant sa vie à s'indigner ? Encore plus difficilement.
Réplique de feu de Giscard à Mitterrand dans le débat de 1974, le débat des deux finalistes de la présidentielle en 1974, est une réplique célébrissime qui contient peut-être en filigrane, en creux, une définition de l'indignation, Laurent de Sutter, qui serait tout simplement de dire qu'il y a d'un côté la rationalité froide qu'on applique, géométrique ou algébrique, et puis, à côté d'elle, en marge, noble, digne et malmenée par cette rationalité, l'indignation, le cœur qui proteste contre ces décisions qu'on trouve rationnelles de prendre. Est-ce que vous souscrivez à cette dichotomie très simple entre d'un côté la raison et de l'autre côté l'indignation ?
Non, pas du tout. Et du reste, l'échange entre Giscard d'Estaing et Mitterrand le montre très très bien.
Laurent de Sutter est professeur de théorie du droit à l'Université libre de Bruxelles.
La première chose que dit Giscard avant de sortir cette phrase célèbre, c'est « je trouve choquant ». Je trouve choquant, et puis il se met à argumenter pourquoi il trouve choquant. Oui. C'est-à-dire que la question de l'indignation s'inscrit, en tout cas dans ce cas-là, mais je crois que c'est aussi le cas pour tous, s'inscrit immédiatement dans un espace qui est un espace de l'argumentation, de la discussion, du débat, un espace dans lequel la question est véritablement celle des armes que l'on utilise pour précisément équiper le cœur.
Et pour aller dans votre sens, on pourrait même ajouter le fait que cette réplique avait été préparée. Donc ceci relevait au départ aussi d'un calcul.
Bien évidemment. Et tout ce qui, prend place à l'intérieur d'un espace, qui est un espace de la discussion publique, s'équipe toujours d'une forme de pensée, qui est une forme qui trouve dans l'histoire de la raison ses armes les plus fortes. Quand le grand philosophe allemand Jürgen Habermas décrit précisément la naissance de l'espace public au XVIIIe siècle, il le décrit comme cela. Il le décrit comme le moment où la raison se déploie à travers toute une série d'équipements, des médias et autres, mais aussi à travers toute une série d'argumentations, à travers toute une série de logiques, qui sont devenues d'une certaine manière aujourd'hui notre lot quotidien, de sorte que lorsque nous nous indignons, et nous indignons beaucoup, eh bien la première chose que nous faisons, c'est pas juste de pousser un cri inarticulé dans la rue, mais c'est véritablement de dire « parce que », de dire « mais », de dire « ce n'est pas possible », et telle raison vient étayer le fait que ce n'est pas possible. Donc il y a quelque chose de très fort là.
Vous n'êtes pas éveillé depuis 5 minutes que déjà, ça sent le vécu, hein. Pardon, c'est vous qui avez écrit ça, que déjà votre estomac se tord, votre épiderme se hérisse, votre nez se met à chatouiller de cette sensation que vous connaissez bien, celle qui vous saisit lorsque monte en vous la colère, lorsque vous êtes choqué par quelque chose. Vous décrivez la trajectoire de l'occidental qui se lève et qui regarde Twitter avant même de se brosser les dents et qui est déjà happé par l'indignation, dont le cœur vibre déjà et déjà happé par l'indignation. Quelle rationalité y a-t-il là-dedans ?
C'est la rationalité de notre condition, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on se lève le matin, on est énervé. On ouvre...
Je me suis réveillé en colère.
Voilà, on s'endort en colère aussi, on mange en colère, etc. etc. Et tout cela est tout à fait normal. Simplement, ce que cela vient nous indiquer, ou ce que cela vient nous expliquer, c'est que cette chose qui accompagne nos vies, l'accompagne autant que la relation que nous avons au monde, que cette vie, d'une certaine manière, occupe. Et moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse dans l'indignation, c'est évidemment pas le fait de l'indignation même, être pour ou contre l'indignation, c'est précisément de se dire, au fond, qu'est-ce que l'indignation nous dit de cette relation que nous avons au monde et qui fait qu'on tolère, néanmoins, d'être comme ça, ulcéré du matin au soir, alors que, disons-le, ça nous rend quand même plutôt malheureux. Hein, c'est pas quelque chose qui nous fout en joie.
On pourrait même poser la question à l'inverse. Tolérerait-on de n'être pas ulcéré du matin au soir ? Tolérerait-on une existence qui ne nous fournisse pas notre lot quotidien de motifs d'indignation, de peau qui se hérisse, etc., etc. ? Est-ce qu'on serait heureux dans une situation comme celle-là ? Est-ce que l'ataraxie du type qui n'a aucun motif d'indignation vous semble souhaitable ?
Je ne sais pas si elle souhaite... Moi, je la trouverais, je crois, très, très déprimante, mais c'est parce que je suis peut-être mélancolique, et donc c'est peut-être ma condition psychopathologique qui est en jeu dans cette affaire. Mais oui, il est vrai que ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. Pourquoi ? Bon, ça, on peut se poser des questions sociologiques, psychanalytiques, etc. Moi, celle qui m'intéresse, c'est véritablement ce qui est dans notre œil, ce qui est dans notre cerveau. Pourquoi est-ce que, quand nous nous levons, nous déchiffrons le monde d'un point de vue qui est un point de vue qui va chercher... derrière la réalité des choses, la raison qui s'y trouve cachée, et que cette raison est forcément une raison qui est une raison plus ou moins ignoble. Voilà, plus ou moins ignoble, plus ou moins terrible, plus ou moins scandaleuse. Et c'est ce scandale qui, d'une certaine manière, nous fait avancer très très loin, puisqu'il nous fait avancer jusqu'au point où au fond, l'indignation, ou plutôt les indignations, puisque les indignations se succèdent, on ne s'indigne pas une seule fois sur la journée pour une seule chose, on passe d'une certaine manière sa journée à sauter d'une indignation à l'autre, plus ou moins importante, plus ou moins grave, sur différents sujets, au point que quand on fait la liste et qu'on parcourt comme cela, comme une guirlande, la totalité de ces indignations, on a, au fond, un ensemble de positions qui finissent par nous définir en tant qu'être humain.
Vous avez parlé des diverses façons de s'indigner. Prenons-en deux à partir du même fait. Voilà une image qui... J'ai tendance à penser qu'on est au-delà de l'indignation face à une image comme celle-là. Il y a quelque chose d'incontestable dans une image comme celle-là qui peut-être surmonte l'indignation elle-même, c'est-à-dire en somme la prise de position. Quelle position prendre ici? Et alors, je voudrais mettre en miroir ceci avec ce qui, pour le coup, a indigné bien des gens, à tort ou à raison, c'est une autre question, qui était le dessin que l'un des dessins que Rice, le dessinateur de Charlie Hebdo, avait pu tirer de cet épisode. Si près du but, on voit le petit Elan Kurdi devant une affiche du McDo, promo, deux menus enfants pour le prix d'un. Quelle différence faire, selon vous, entre l'indignation qui étreint toute personne à peu près normalement constituée, capable de souffrir des douleurs qui lui sont épargnées, et l'indignation qui étreint le lecteur accidentel de Charlie Hebdo qui tombe sur ce dessin-là?
Ben justement, il n'y en a aucune. Mmh. Il n'y en a aucune parce que le portrait de la personne que vous venez de dresser, la personne normalement constituée, etc., au fond, c'est tout le monde. Tout le monde est la personne normalement constituée qui n'est pas complètement à côté de ses pompes, qui a des valeurs
plus
ou moins à sa place.
Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon au dessin de Rice.
Non, parce que la question qui se pose est la question de l'absolu, si vous voulez. Là, on arrive dans un point. Toute indignation s'inscrit toujours dans un horizon qui est l'horizon d'une valeur ou d'un principe qui vient légitimer le fait que l'on se soulève. Et ce principe, plus il est élevé, plus l'indignation est riche et puissante. Dans le cas de la photographie, évidemment, la photographie a trait à l'absolu des absolus, qui est la mort, et spécialement la mort d'un enfant. D'une certaine manière, on ne peut rien dire contre la mort. La mort se constate, et puis après, fait l'objet d'un deuil, fait l'objet d'un...
Non, mais il y a en amont de cela les conditions d'accueil des migrants, la façon dont les choses sont gérées, le fait que la Méditerranée est devenue un cimetière, le fait qu'on est ici sur la plage de Baudron. Enfin bref, il y a toute une série d'éléments qui sont rappelés, qui sont charriés, si j'ose dire, par cette image terrible.
Absolument, et qui sont entraînés par la figure de la mort, qui donne à l'entièreté de ces autres coordonnées leur intensité propre.
Voilà.
Et d'une certaine manière, ce qu'a voulu faire Rice dans sa caricature, c'est miser sur cette mort pour rajouter à l'ensemble du contexte qui est déjà présent sur la photo un élément qui ne s'y voit pas immédiatement, sauf si on regarde un peu attentivement les déchets qui se trouvent sur la plage,
oui,
etc.
Qui est l'élément du cynisme possible qui sous-tend cette image-là. Parce que ce que Rice dénonce ici, ça n'est pas l'image elle-même, naturellement, ni le sort de l'enfant, c'est l'utilisation qui peut en être faite. Est-ce que ce qui indigne, ça n'est pas le fait que l'on ose réfléchir, en somme, ou faire réfléchir, ou inviter les gens peut-être à penser sur une image comme celle-là?
Je ne crois pas. Je crois que ce qui indigne est toujours une indignation pour quelqu'un. Ouais. C'est-à-dire, cela va indigner ceux qui considèrent qu'effectivement, on ne peut pas toucher à cette photographie. Ouais. À l'inverse, ceux qui considèrent qu'en effet, la question du capitalisme, par exemple, est absente de la photo, la chose sera inverse. La question est toujours celle du positionnement sur la carte des positions possibles que les indignations révèlent. C'est pour ça que l'indignation est toujours polarisante, si vous voulez. Elle divise le monde en deux, en vous et en moi, en ceux qui sont pour, en ceux qui sont contre. Et c'est cette polarisation qui finit par constituer, qui finit par constituer les identités de ceux qui se disent « voilà, moi je ne suis pas comme vous ». Bon. Ceux qui décident de défendre Rice, ceux qui décident de défendre cette photographie peuvent être très bien les mêmes, ils peuvent être différents. La question est celle, à chaque fois, de la fonction que la photographie joue dans cette espèce de constitution des identités. La manière dont elle peut servir, effectivement, d'argument, dont elle peut servir à étayer un ordre des raisons qui permet de dire, maintenant, il faut arrêter avec ces bêtises. Et c'est ce qui s'est passé, du reste, avec la photographie, comme vous le savez très très bien, puisque du jour au lendemain...
Le plus jamais ça est apparu.
Est apparu, et tous les gouvernements qui, jusqu'à ce moment-là, refusaient de regarder la question des migrants en face, subitement se sont dit, oui, bien sûr, nous allons accueillir des gens, etc. Ça n'a pas duré très très longtemps, on est bien d'accord, mais pendant un petit moment, ça a eu, d'une certaine manière, un espèce d'effet pragmatique.
Êtes-vous pour ou contre l'indignation? Avez-vous besoin de l'indignation pour vivre ou est-ce que l'indignation vous indigne? Dans les deux cas, vous êtes coincé. Comment vous entendez ça?
Je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort dans l'indignation. C'est finalement comme une espèce d'antidote à la résignation. C'est ce qu'il dit sur le cynisme. Bah, on sait qu'ils le disent, mais qu'ils ne le font jamais. si on n'est pas choqué, en tout cas s'il n'y a pas quelque chose qui nous interpelle, vous avez parlé de la photo tout à l'heure, bah, en fait, il y a des millions de victimes d'accidents de la route, il y a des millions de morts, tout finit par faire le même poids. Donc il faut qu'à un moment, on retrouve une espèce de source d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il parle de son indignation, mais on voit qu'il prend un ton extrêmement calme. Parce qu'il a très peur de correspondre à l'espèce d'étiquette de « vous êtes jamais content, vous êtes toujours en train de critiquer », etc. Donc, il essaye d'avoir cette indignation calme, Cyril, de dire « c'est pas possible, je ne veux pas accepter que ce soit terminé ».
Comment comprenez-vous, Laurent Sutter, le fait qu'il dise « on s'indigne, mais on n'est pas surpris » ?
Je pense qu'il faut distinguer en réalité.
Parce que dans son indignation, comme si son indignation, comme s'il pouvait, en somme, prévoir le revirement qu'il dénonce ici.
Moi, je pense que Cyril Dion n'est pas du tout indigné dans cette affaire. Il fait quelque chose de très important, de très grave et de très utile, très lourd. Il fait de la politique. L'indignation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une question qui aujourd'hui est devenue existentielle. Mais il y a un moment donné où cette espèce de cercle comme ça de l'indignation au saut de l'une à l'autre s'arrête. Et on est soit élu par quelque chose, soit on élit quelque chose comme étant quelque chose qui nous dépasse d'une certaine manière et pour lequel on se vide. Il y a une espèce de devenir impersonnel qui se produit au moment où une cause vous saisit et vous sortez de ce cercle comme ça de l'indignation, du cercle de l'identité. Vous désidentifiez parce que c'est la cause qui devient plus importante. Moi, quand j'entends Cyril Dion parler, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose comme ça. Plutôt que quelqu'un qui s'indigne, c'est quelqu'un qui utilise peut-être le vocabulaire ou le lexique de l'indignation, mais pour faire un travail qui est un travail, lui...
Pour tirer concrètement le bénéfice qu'il y a à retirer d'une palinodie présidentielle...
Exactement, c'est de la stratégie, c'est de l'échec, du jeu d'échecs, voilà. Et on est dans quelque chose, à mon avis, très très différent de ce point de vue-là. On n'est plus dans le simple échange d'arguments et de raisons pour savoir où on se trouve.
Est-ce qu'on sort jamais de la politique? Est-ce que l'indigné sort de la politique, au sens même le plus bas du terme? Il faut aller à l'idéal, disait Jaurès, et comprendre le réel.
Moi, je pense que la réalité est toujours superflue, parce que la réalité, c'est le concept de police par excellence. Quand quelqu'un vous dit « la réalité, c'est ceci, la réalité, c'est cela », je veux dire, c'est un discours qu'on entend beaucoup, du reste, chez les hommes politiques. Il faut être réaliste. Hein, voilà, bon, quand il faut être réaliste, vous savez qu'on va vous interdire quelque chose ou qu'on va rendre quelque chose impossible, etc. etc. Donc, c'est vrai que la réalité... Je ne vois pas pourquoi la réalité pourrait être une barrière. Ici, le problème de cette affaire, effectivement, c'est faux. C'est ensuite repris plusieurs années de suite, désinformé par des sites de
et de gens qui se disent il n'y a pas de fumée sans feu.
Voilà.
Que reste-t-il à ce moment-là de cette définition de l'indignation à une époque où, par les réseaux sociaux, par le désir que l'on a de se convaincre ou de se persuader de ce qu'on pense, en somme, la rationalité est récusée, congédiée comme une vieille concubine. On n'en veut plus de la rationalité. Elle est perçue comme l'alibi du conservatisme. Et en somme, on n'en veut pas, on n'en veut plus. Que reste-t-il de l'indignation à une époque où on récuse la raison, en fait ?
Moi, j'aurais tendance à dire que nous vivons une époque qui est une époque du triomphe absolu de la raison, justement. C'est-à-dire un moment où la totalité des discours s'inscrivent plus...
Alors, c'est une raison folle.
La raison, je crois que la raison est folle et a été folle depuis le début. En tout cas, la raison moderne, celle qui effectivement a donné lieu à l'espace public de discussion dont on parlait tout à l'heure avec vous. Et effectivement, le désarroi qui est le vôtre face à ces paroles qui ont l'air un peu délirantes parce que nous appartenons à un monde très particulier. Vous êtes femme politique, je suis universitaire, vous êtes vous-même philosophe et homme de médias. Ça nous paraît délirant suivant nos propres leçons, d'une certaine manière. Mais je crois que c'est une bonne occasion de nous poser la question de savoir si, effectivement, cette vision de la raison que nous avons est effectivement une vision si bien fondée que ça, ou si, au contraire, à la lumière de cette chose qui nous glisse entre les doigts, il ne serait pas temps de se reposer la question des conditions de notre parole et des conditions de notre pensée.
Il y avait ceux qui invitaient à penser par soi-même, ceux qui invitent à penser par les autres, et Michel Foucault, peut-être, qui invitait à penser autrement. Ce sera le mot de la fin.